Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invitée, la comédienne Cécile de France, va parler du film Illusion perdue d'après l'œuvre de Balzac. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa célébrité. Et puis Marc-Antoine Lebray pour clore l'émission. Bonjour Alice Bluzet.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On vous retrouve vers 10h30, je salue Bruno Donnet, bonjour.
Bonjour Philippe.
Tous les jours Bruno, vous décortiquez ici les mécanismes médiatiques et ce matin, vous avez choisi d'aborder un sujet qui fait souvent un peu mal aux oreilles, l'omniprésence des jingles sonores dans la publicité.
Oui, alors si vous avez les tympans chatouilleux Philippe, je vous conseille de baisser légèrement le volume de votre casque car les 3 minutes qui vont suivre risquent d'être un peu douloureuses pour vous. Et pourtant, comme moi, vous les avez déjà forcément subis tant ils ont progressivement envahit nos esgourdes délicates, les indicatifs sonores des marques. Et si ces petites musiques nous tapent méchamment sur le système, Philippe, c'est normal, c'est fait pour. Car au temps 1 de la publicité, les annonceurs pensaient que la meilleure technique pour nous bourrer le crâne consistait tout simplement à marteler le nom de leur marque. Voilà pourquoi le tout premier spot de pub diffusé à la télévision française le 1er octobre 1968 résonnait comme ceci.
Du Boursin.
Un type se réveillait en pleine nuit, sortait de son lit et traversait tout son appartement en pyjama direction la cuisine en répétant 58 fois de suite la marque de son frometon préféré jusqu'à ce qu'il arrive soulagé devant la porte du frigo.
Ah, du Boursin.
Mais ça, Philippe, c'était avant que les publicitaires ne s'aperçoivent, les fourbes, que pour retenir un truc, la meilleure façon de s'y prendre, c'était de le chanter. Ça marche avec les tables de multiplication ou avec les déclinaisons latines popularisées par Jacques Brel. Et donc, ça fonctionne également avec les marques. Du coup, elles sont nombreuses à avoir dépensé des sommes rondelettes pour se créer une identité sonore. Certaines tiennent en 4 notes. Do, sol, la bémol, mi bémol, c'est la douce signature de la SNCF. D'autres sont devenues cultes collants. Parfaitement bien à leur époque. Mais il y a un mais, car si les architectes sonores, c'est comme ça que s'appelle le métier de ceux qui facturent leur création entre 20 et 200 000 euros, sont quelquefois très inspirés, il arrive bien plus régulièrement qu'ils soient franchement pénibles. C'est pas grave, car leur unique but est, dans leur composition, qu'elles s'incrustent dans notre cerveau le plus profondément possible et quelquefois, plus c'est insupportable,
Carglass répare, Carglass remplace,
eh ben mieux ça fonctionne. Il arrive même qu'un annonceur soit tellement content de sa trouvaille qu'il la décline et la fasse évoluer au fil de ses publicités. C'est le cas de cet assureur qui, non content de faire fredonner sa petite virgule aux acteurs de ses spots,
non, il y a pas de non,
l'a remixé en version sonnerie de téléphone, remasterisé en mode je sais pas comment ça s'appelle, avant de la passer carrément à l'autotune, ce logiciel que vous entendez très régulièrement si vous êtes amateur de rap et pas que. Voilà, alors ne croyez pas, Philippe, que vous allez échapper à l'une des créations les plus minimalistes du moment. Là, on sent qu'il y a des types dans une agence qui ont dû phosphorer pendant au moins 5 bonnes minutes avant d'accoucher de ça. Mais sachez que si vous en avez ras-le-bonnet d'entendre cette petite musique-là à chaque fois que vous allumez ou que vous éteignez votre ordinateur, l'indispensable Philippe Catherine les a bien mis en boîte et en a même fait un morceau épatant. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez remettre le volume de votre casque. Niveau normal.
Bruno Donnet, merci beaucoup. Et juste un mot, la pub MMA, c'était une chanson de Princesse Erika.
Exactement.
Trop de zéro blabla. Exactement. Lui dit zéro tracas. Non, pas du tout. Trop de blabla.
Me dit cet homme-là.
Alice Bluzet, votre programme, le programme de votre indispensable ce matin aux alentours de 10h30.
Ce matin, je vais vous parler de théâtre, d'une comédie de boulevard vraiment hilarante avec Patrick Chesnay.
Et on n'est pas plus, on reste comme ça.
On reste comme
dans
ça, on garde
instant,
le reste pour la fin.
Cécile de France, j'en dis pas plus, on va parler du film Illusion perdue, mais d'abord musique, avec le premier extrait du nouvel album de Gregory Porter qui va sortir le 5 novembre. On écoute Dry Bones sur Europe 1. I won't die, won't bury, won't sink, 'cause love is the spirit I drink. I'll be free in the morning light, 'cause your touch is the medicine of life. There's a dance to this beat, let's shake. Every move feel my body awake. There's a sound, you and me are one, and the home is the rhythm I've drum. Is your soul in the desert? Are your dreams in the sand? Dry Bones, c'était Gregory Porter sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Cécile de France.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, comme dit la presse, vous allez comprendre pourquoi je démarre comme ça. Vous avez crevé l'écran en étudiante lesbienne dans la trilogie de Clapiche, L'Auberge Espagnole, Les Poupées Russes, Casse-tête Chinoise, qui vous a valu 2 Césars, meilleur espoir féminin puis meilleur second rôle. Filmographie assez impressionnante qui vous a amené de passer de Claude Miller aux Frères Dardenne, d'Éric Rochant à Wes Anderson. Mais là, voici à l'affiche d'un film très attendu, Illusion perdue, d'après Balzac, d'après son chef-d'œuvre, ou un de ses chefs-d'œuvre, film de Xavier Giannoli avec Vincent Lacoste, Benjamin Voisin qui joue Ruben Pré, mais également Gérard Depardieu, Jeanne Balibar, Jean-François Stévin, rien que ça, ça sort demain. Vous aviez déjà tourné Xavier Giannoli, c'était Quand j'étais chanteur en 2006 et Superstar en 2012. Est-ce que vous l'avez dit oui tout de suite ou est-ce que c'est parce que vous êtes une grande lectrice de Balzac à la base ?
Alors, je suis surtout fan de Xavier Giannoli. Vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Et d'ailleurs, je lui ai juré que jusqu'à ma mort, j'accepterai absolument tout ce qu'il me propose sans même lire.
Et est-ce que vous aviez lu alors Illusion perdue de Balzac ?
Eh bien non, je ne l'avais pas lu à l'école.
Et après,
bien sûr, je l'ai lu avant de... Je sais plus si j'ai lu d'abord le scénario ou d'abord le roman. Mais en tout cas, j'étais agréablement surprise parce que dans le livre, mon personnage... On l'appelle l'os de sèche. Alors, voilà.
Avant de parler de votre personnage, d'abord, que raconte l'histoire pour qui n'aurait pas lu Balzac ?
Alors, c'est l'histoire de Lucien de Ruben Pré, qui est le nom de sa maman, mais à la base, c'est un petit fils de pharmacien et qui rêve de devenir écrivain et qui va rencontrer à Angoulême la noble du coin, qui est Madame Louise de Bargeton, qui va devenir sa protectrice et qui anime un salon littéraire dans son château. Et ensemble, ils vont partir à Paris. Et là, il va découvrir l'enfer, la damnation de Paris, avec son monde corrompu du journalisme, du théâtre, avec ses petites magouilles, ses petites corruptions.
Pas toutes petites, parfois énormes. Non. Louise de Bargeton, c'est vous, c'est votre personnage, Cécile de France. Avant d'en parler, on va entendre la bande-annonce.
J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un.
Il nous vient d'Angoulême.
Lucien de Rubempré, pour vous servir.
Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble.
Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste.
Et tu crois que c'est quoi, mon métier?
Vous éclairez les gens sur l'art. Le monde.
Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal.
Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Quelle folie de partir ensemble, dit Louise de Bargeton à Lucien de Rubempré, parce qu'en fait, elle est mariée et vous partez ensemble dans la même calèche. Qui est-elle? Qui est votre personnage?
Alors, c'est une femme très, très malheureuse qui vit une vie sans intérêt, sans issue, puisque son papa la marie à un vieux baron, Monsieur de Bargeton, qui interprété d'ailleurs merveilleusement par Jean-Paul Muel. Voilà, donc elle a une vie... Elle dépend complètement de son mari, elle n'a aucune liberté.
Et elle s'en tiche de ce petit gars.
Voilà, elle tombe amoureuse de ce beau jeune homme, en plus il est très beau. Et chez Balzac, c'est vrai que c'est parce qu'elle s'ennuie qu'elle va tomber amoureuse de lui. Alors que là, comme on le traite dans le film, c'est vraiment un amour sincère et charnel et passionnel. Et c'est effectivement une folie absolue. Que de partir comme ça. Mais il y a tellement d'obstacles à ce qu'elle puisse vivre librement son amour. Et elle en a marre d'être vue comme une lépreuse. Et puis, à cette époque-là, et dans cette caste sociale-là, surtout, c'était très, très, très mal vu. Les petits nobles qui s'ennuyaient, en fait, finalement, avaient enfin quelque chose de romanesque à se mettre sous la dent. Et au risque, de devenir une paria, ils décident de partir ensemble.
Xavier Jeannoli dit de Louise de Bargeton, le personnage, qu'il l'a un peu modifié par rapport au roman de Balzac. Il dit qu'il l'a humanisé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a plus d'empathie pour elle. Balzac est toujours en colère, en fait, contre l'humanité. Et ses personnages, pour lui, sont toujours impardonnables. Ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'âme. Alors que Xavier Giannoli, lui, aime passionnément justement les états d'âme.
Vous parliez de son surnom, l'os de sèche. Là, c'est pas du tout un os de sèche. Elle est très sensuelle.
Oui, Puis il a repris un petit peu. Il s'est approprié l'œuvre de Balzac. Et moi, je considère qu'un cinéaste a tous les droits. Et donc, il a mis un peu plus d'humanité, effectivement, de sensibilité, d'émotion, d'amour. Oui, effectivement, d'empathie pour ces personnages. Parce que c'est aussi en ayant de l'empathie pour un personnage qu'on peut mieux ressentir la dureté du système. Parce que chez Balzac et chez Xavier, les humains sont broyés, en fait, par le système, par la société. En tout cas, là, par exemple, de mon personnage, par le système des castes sociales.
Xavier, c'est Xavier Giannoli. Son film sort demain. Ça s'appelle Illusion perdue. C'est avec Cécile de France. On va parler aussi d'humanité. C'est Lisa Marie Marquez qui va dresser votre portrait pré-fame juste après une courte pause.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de la comédienne Cécile de France. On parle de son film Illusion perdue. On va mieux vous connaître, Cécile, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Cécile de France.
Bonjour.
Vous êtes une raconteuse d'histoire. Une île était une fois en chair et en os, capable de changer d'allure à chaque interprétation et d'endosser des rôles divers et variés. Vous avez aussi obtenu deux Césars à 3 ans d'intervalle pour le même personnage.
Ah oui.
Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Cécile de France, vous êtes née et vous avez grandi en Belgique, à Namur. Vos parents sont cafetiers dans leur bistrot, petite. Vous rencontrez des artistes et vous découvrez dès l'enfance qu'on peut vivre de sa passion, même si parfois c'est modestement. Vous vivez une enfance bohème, un peu baba cool. Vous recevez une éducation assez libre, antimatérialiste. Vos parents vous apprennent à écouter votre cœur.
C'est vrai ?
Ouais, c'est exactement ça.
Ils avaient un café baba cool, vos parents ?
Oui, puis il y avait un grand drapeau noir, et puis il y avait des affiches « Perdre sa vie, elle a gagné », tout ça. Donc j'avais été effectivement... j'ai appris à écouter mon cœur.
Le drapeau noir des anarchistes.
Oui, voilà.
Et votre cœur, il se met à palpiter très fort à l'âge de 6 ans lorsque vous récitez une poésie en classe. Vous vous présentez devant le tableau, bien droite, pour dire un texte que vous avez appris sur le bout des doigts. Vous avez surtout imaginé, avec votre maman, une vraie mise en scène avec des gestes et une petite chorégraphie comme un spectacle. Les élèves face à vous sont stupéfaits, puis éblouis. Ils rigolent, ils sont émus et ils vous applaudissent. Vous sentez leur émotion pour la toute première fois.
Oh, ça me touche beaucoup parce que vous le racontez vraiment bien, c'est tout à fait ça.
Raconter, c'était quoi ?
Je ne sais plus quel poème c'était.
C'était
un poème, je pense, de Maurice Carême.
Ouais.
Et le petit chat, ou je ne sais plus. Non, mais en revanche, je me souviens très bien, oui, du regard, ce que je voyais dans les yeux de mes copains. Ils étaient comme ça, les yeux écarquillés, et puis ils étaient émus, puis ils rigolaient. Et voilà, cette sensation magique, j'ai voulu la garder toute ma vie, quoi.
Et la semaine suivante, lorsque la maîtresse demande qui veut réciter la poésie, toute la classe crie votre nom. Cécile,
ouais. Cécile.
C'est pas vrai, c'est génial.
Ah ben là, c'était parti, quoi. Ma voix était destinée, oui.
Cécile de France, vous découvrez le cinéma à travers la télévision. Vous regardez des films de pirates et des westerns. Vous adorez les femmes en costume dans les films. Et vous vous prenez au jeu. À la maison, vous enfilez une chemise de nuit. Vous la serrez à la taille pour tenter de ressembler à Virna Lisi dans le film de KPDP, La Tulipe Noire.
Oui, exactement. Et c'est même... j'imaginais même que je devais me déguiser en garçon, en fait, pour pouvoir vivre toutes ces aventures, puisque les femmes dans ces films, elles sont un peu plan-plan, elles ne vivent pas l'aventure.
Oui,
voilà. Et donc, c'est pour ça que je m'imaginais me déguiser en garçon pour vivre les mêmes aventures.
Vous êtes aussi une fan de Peter et le Dragon, film musical de Disney que vous avez en version 45 tours raconté par la voix grave et captivante de Jean Topard.
Ah ouais.
Chers petits amis, voici l'histoire de Elliot le dragon et de Peter son compagnon. Vous pouvez la lire en même temps que moi dans votre livre d'images. Vous saurez que le moment de tourner la page est venu lorsque vous entendrez tinter cette petite clochette.
Oh, j'en sais pas.
C'est bien compris ? Alors, commençons.
Cécile de France est complètement transportée en enfance. C'est dingue.
Ah, c'est génial, j'adore. C'est une voix d'or, hein, on appelle ça une voix d'or.
Et c'est votre 45 tours parce qu'il gratouille un peu. Vous l'avez trouvé où ? Ce sont les Amaris.
C'est sur YouTube que je l'ai trouvé, je pense que c'est le 45 tours qui a été enregistré, oui,
c'est
effectivement.
Les gens ne se remettent même pas à mettre un bon 45 tours et c'est encore plus charmant.
Cécile de France, vous prenez des cours de théâtre et vous avez une conviction, jouer fera partie de votre vie puisque c'est votre passion et que ça vous rend heureuse. Vous allez devenir comédienne. À l'âge de 17 ans, vous quittez la Belgique, direction Paris, une ville que vous n'aimez pas beaucoup. Vous êtes d'abord fille au père pour vous payer des cours de théâtre privé, puis vous intégrez l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. L'agent des comédiens au flair infaillible, Dominique Besnéard, vient voir les spectacles de fin d'année et vous repère. Vous tournez alors dans plusieurs courts-métrages sans penser d'abord au cinéma. C'est un directeur de casting qui y pense pour vous, pour le premier film de Richard Berry en tant que réalisateur. Vous passez d'abord les essais pour un rôle secondaire, celui d'une prostituée, et vous obtenez finalement celui de Laure, premier rôle féminin aux côtés de Patrick Timsit dans L'art délicat de la séduction. 2 ans plus tard, Cédric Clapiche vous révèle dans son film L'Auberge espagnole, un film qui pousse des générations entières à faire Erasmus et qui vous propulse. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Oh, merci. Merci, c'est un magnifique portrait. Je suis très honorée, très émue.
Et je vous sens émue.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et alors, le théâtre, vous l'avez un petit peu abandonné ou je me trompe ?
Non, c'est vrai. C'était quand la dernière fois que j'en ai fait ? C'était il y a quelques années pour Anna, une comédie musicale de Serge Gainsbourg.
Ouais.
Et on s'est éclaté, c'était avec mes super potes en plus, donc j'étais très heureuse. Après, moi, j'adore les tournages de cinéma parce que chaque jour est différent, parce que c'est quand même magique, quoi. Et notamment, Illusion perdue, tourner ce genre de film dans des décors aussi incroyables que ceux-là, avec des costumes somptueux, c'est quand même la petite fille qui est en moi, voilà, réalise un rêve aussi.
Il y a non seulement des décors, non seulement des costumes, mais il y a des très 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 grandes pièces, il y a des figurants, il y a des scènes de bal ou des scènes de soirée dans le salon, très impressionnantes, même visuellement. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez, Culture Média continue, Cécile de France continue. On va parler de beaucoup de choses, on va parler de théâtre également, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de l'actrice Cécile de France, elle est à l'affiche d'Illusion perdue, elle n'est pas seule dans Illusion perdue, du film de Xavier Giannoli qui sort demain. Il y a Vincent Lacoste, Gérard Depardieu, Jeanne Balibar, Jean-François Stévenin. Ça raconte, c'est d'après Balzac évidemment, ça raconte l'histoire de Lucien de Rubempré et son double combat dans ce film. D'abord un combat personnel pour récupérer son titre. Sa maman s'appelait du Rubempré avec une particule et lui s'appelle Chardon, le nom de son père. Et aussi un désir de réussite sociale, monter à Paris, devenir quelqu'un. En l'occurrence, se faire une place dans le milieu du journalisme et dans la presse qui est une industrie naissante. Pour comprendre le contexte, on va entendre un extrait. Lucien de Rubempré rencontre Lousteau, jeune journaliste lancé qui le prend sous son aile et qui va lui apprendre les réalités parfois noires du métier.
Je t'ai apporté mon recueil.
Et je vais te donner le nom d'un ou deux éditeurs, t'inquiète pas.
Je m'inquiète pas ?
Bah si, tu t'inquiètes là.
Je voulais dire, je respecte énormément le métier de journaliste.
Oui ? Et tu crois que c'est quoi mon métier ?
Vous vous rendez compte des nouveaux livres, des nouvelles pièces de théâtre, des nouvelles idées ? Vous éclairez les gens sur l'art, le monde.
Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Et au passage, de ratisser le plus possible.
De ratisser ?
Ratisser.
Ça veut dire quoi, ratisser, Cécile de France ?
Ben, l'argent. L'argent, voilà. En fait, le film raconte aussi la montée du capitalisme et de l'économie libérale, en fait. Et on explique comment, déjà à cette époque, puisque finalement, Balzac avait compris que c'était la matrice de notre société moderne, c'est l'argent qui décide de tout. C'est l'argent qui domine, c'est tout est marchandise, tout s'achète, tout se vend. Et du coup, même le journalisme, même l'art, même le talent, même le pouvoir, enfin voilà, tout est dominé par l'argent.
On va entendre la vision du réalisateur Xavier Giannoli qui voulait adapter ce livre depuis très longtemps. Il était ce week-end l'invité de Frédéric Taddeï dans son émission « C'est arrivé demain » sur Europe 1. Et ce film raconte un peu, selon lui, la naissance d'une certaine forme de journalisme.
Balzac voit naître le monde moderne, surtout celui, il est d'une grande sévérité, de ce qu'on va appeler la presse commerciale. Pour le dire simplement, dans le roman, on voit que des petits journaux, grâce à des nouvelles lois libertaires, fleurissent à ce moment-là dans le Paris de 1820. Et ces journaux ont le pouvoir, par exemple, de détruire une pièce de théâtre et donc de ruiner un théâtre. Et comme des gangsters, ces journalistes ou ces critiques vont voir les patrons de théâtre et les rackettent en disant « Combien tu me donnes pour que je ne détruise pas ta pièce ?» Et en fait, Balzac, évidemment, prend ça dans un mouvement plus ample et plus intéressant, qui est quasiment un mouvement de civilisation, hein, on pourrait dire, qui est d'un coup un monde, le grand tournant du libéralisme et du capitalisme, d'une société entière qui va s'agenouiller devant l'obsession du profit. C'est un monde où désormais tout sera à vendre et à acheter. Et qu'est-ce qui peut rester de vrai, d'authentique ou de beau à partir du moment où un journal, on ne pouvait pas encore dire une radio, ou une télévision deviennent des boutiques où, pour reprendre les mots de Balzac, il faut vendre au lecteur des couleurs, de la couleur qu'il veut.
Dans le film, on voit que la critique s'achète, positive ou négative. Mm-hmm. En tout cas, ce n'est pas sincère. Vous-même, vous avez déjà ressenti de la mauvaise foi chez les critiques, même si maintenant les critiques ne sont plus achetées comme ce fut le cas il y a un siècle et demi. Mais est-ce que parfois vous avez déjà ressenti de la mauvaise foi ?
Mais il y a des fois, j'avais ressenti avec certains réalisateurs qui m'avaient dit « Tiens, regarde, lui, il a dit du mal, mais en fait, lui, je le connais, c'est un ancien scénariste. Et il n'a pas, trouvé sa voie, il n'a pas trouvé de job dans le métier du cinéma. Du coup, il est devenu journaliste et du coup, il dit du mal des films. » Ça m'avait fait marrer parce que c'était Étienne Chatiès qui m'avait raconté ça. Et non, mais voilà, c'est vrai que nous, on voit à quel point ça peut être assez cruel. C'est-à-dire qu'un réalisateur, il va mettre des fois 10 ans de sa vie pour faire un film. Là, Xavier, ça fait 20 ans qu'il voulait le faire, quoi. Enfin, donc c'est fou, même plus. Et donc, et des fois, voilà, juste le trait d'une plume assassine peut tout et faire écrouler tout votre monde. Donc, il faut faire attention. Hein.
Et puis, on assiste également à la naissance de la publicité. Les actrices de théâtre à l'époque sont les stars de leur époque. Elles deviennent déjà des égéries de marque, toujours au micro de Taddei, Xavier Jeannery.
Alors le mot égérie, c'est un mot de la Grèce antique, c'est pas du tout un mot contemporain. Et par exemple, le mot star apparaît à cette époque dans la presse anglaise. Et en fait, Balzac voit naître ce moment où la notoriété va devenir une force de vente. Et n'oublions pas que la dernière image, on peut dire ça comme ça, d'un grand homme de province à Paris, qui est le livre central d'Illusions perdues que j'adapte, c'est une prostituée. Et Balzac, sans être un moraliste énervant, parle de la prostitution de soi-même dans ce monde obsédé par le succès et le profit. Donc évidemment, il voit naître la publicité, il voit naître... En fait, vous savez, Marx est dans les rues à cette époque, hein, au moment où il écrit Illusions perdues. Donc en fait, il voit le monde rentrer dans, pour parler comme les marxistes, dans les eaux glacées du calcul égoïste.
Et puisqu'on parle d'égérie, c'est Île-de-France, c'est assez intéressant de vous demander ça, car vous avez toujours renoncé, c'est assez rare pour être signalé, alors qu'on vous l'avait déjà proposé, à être égérie d'une marque. Pour quelle raison?
Parce que je suis... Justement, le film parle du lien d'interdépendance qu'il y a des fois entre la culture, la finance, le commerce, etc. Et moi, je ne sais pas, je trouve ça deux choses séparées, en fait.
On va citer personne, mais il y a plein de comédiennes, quand on leur propose ça, elles sont absolument ravies d'être l'égérie d'une marque de luxe. Et elles vont à Cannes pour ça. Hein.
Mais c'est que ça leur plaît, c'est que ça les intéresse.
Pourquoi vous avez dit non vous-même? Parce que c'est dire non, c'est très facile, mais dire non, c'est aussi renoncer à une belle somme.
Mais parce que je ne fais pas ce métier pour le luxe, en fait. Parce que ces marques de produits de beauté sont reliées à une image de luxe. Mmh. Et moi, c'est un domaine qui ne m'attire pas du tout. Je ne fais pas du tout ce métier pour ça. Donc voilà, ce n'est pas dans ma culture, ce n'est pas dans mes goûts, on va dire.
Lucien de Rubempré, est-ce que c'est un peu vous réussir à Paris quand on vient d'Angoulême? Pour vous, de Belgique, je vois petit sourire que vous voyez venir ma question. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous identifier à Lucien de Rubempré? Et corollaire, en quoi êtes-vous différent?
Je pense que tous les jeunes... provinciaux ou belges, ou enfin tous les gens qui arrivent à Paris, qui est un peu considéré comme une espèce de forteresse enchantée, comme ça, à laquelle les jeunes vont à l'assaut. Et c'est normal, quand on est jeune, d'avoir de l'ambition, d'avoir une soif de reconnaissance, finalement. Et heureusement, je trouve ça sain. Et Balzac aussi disait que c'était sain. Après, effectivement, moi aussi, j'étais naïve. Moi aussi, j'étais un peu perdue dans ce monde.
Est-ce que vous avez perdu des illusions en cours de route, pour paraphraser Balzac?
Alors, pour moi, non, puisque évidemment, je suis encore là aujourd'hui. J'ai réussi à rester cohérente avec moi-même, à ne pas salir ma conscience comme ça arrive à Lucien, en fait. Lucien, c'est un voyage initiatique. En acceptant de rentrer dans ce mécanisme corrompu, il va y laisser son honneur, sa pureté. Et moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je suis bien entourée, je crois assez solide finalement.
Et vous tournez beaucoup et toujours, on n'a même pas encore eu le temps d'en parler, on va parler théâtre et ensuite de vos projets parce qu'il y en a pléthore. Illusions perdues, ça sort demain, c'est Île-de-France, elle est avec nous dans quelques instants, Alice Bluzet va nous rejoindre, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Blandel.
En compagnie de l'actrice et comédienne Cécile de France, Illusions perdues, le film de Xavier Jeannely, ça sort demain. On parlait de théâtre, ça fait longtemps que vous n'avez pas joué au théâtre. Moi j'avais noté Anna, c'était en 2013, d'après Gainsbourg, mise en scène d'Emmanuel Domas. Et aussi Le Temps des cerises de Nils Arostrup, là ça remonte en 2008.
Oui c'est vrai, il y a longtemps là.
Vous êtes resté sur le cinéma.
Mais oui, mais oh, j'adore me lever le matin, les jours de tournage, et me lever tôt et retrouver les coiffeuses, maquilleuses, changer de costume, changer de décor. Chaque jour est différent. J'adore ce tourbillon-là.
Ah oui, parce qu'une pièce de théâtre, on est habillé tous les jours de la même manière. Alice Bluzet, bonjour.
Bonjour.
Je vous regarde non pas que vous soyez habillée comme la veille, mais parce que ce matin, vous allez nous parler de théâtre.
Oui, d'une pièce de théâtre en particulier, un grand classique. C'est le système Ribadier, mis en scène par Ladislas Chola au Théâtre de la Michaudière à Paris. Je voulais vous dire aussi que le Théâtre de la Michaudière, c'est un très joli théâtre. C'est un théâtre art déco. Ouais. Donc le lieu vaut déjà le détour.
Pardonnez-moi, il est très très beau le théâtre dans Illusions perdues, fin de la parenthèse. Voilà. Il est splendide.
Donc moi je vous parle du système Ribadier, donc mis en scène, c'est une comédie de Georges Feydeau, adaptée des dizaines de fois au théâtre depuis sa création en 1892.
Alors ça parle de quoi? C'est quoi le pitch en gros?
Alors le pitch, en quelques mots, c'est l'histoire d'un couple marié, les Ribadier. On a d'un côté Angèle Ribadier, dont l'ancien mari, Monsieur Robineau, était un grand coureur de jupons. Il l'a trompée 365 fois en 8 ans. Ça fait une tromperie tous les 8 jours,
bah
exactement.
Oui, 365 fois 8.
Ça fait quand même beaucoup. Il était en forme. Après la mort de Monsieur Robineau, donc Angèle se remarie avec Eugène Ribadier. Est-ce que vous me suivez toujours ?
Oui, bien sûr, bien sûr. J'étais en train de refaire le calcul, non, mais là c'est bon.
Parce que vous savez, c'est un vaudeville, donc l'intrigue parfois elle peut être assez dure à expliquer. Ouais. Notre Madame Ribadier, donc, elle est devenue complètement paranoïaque à cause des tromperies de son ex-mari. Elle se prend vraiment pour une espionne. Elle suit son nouveau mari, fouille son courrier. Tout est bon pour le surprendre sur le fait, parce que cette fois, elle ne veut pas être bernée.
Et alors, est-ce que ça marche ?
Alors oui, au début, tout va bien, elle ne remarque rien. Mais en réalité, son nouveau mari la trompe aussi. Comment ? Grâce au système Ribadier, bien sûr.
Le titre de la pièce.
Exactement. Le système Ribadier, c'est l'hypnose. Son mari l'hypnotise pour l'endormir et sortir faire ses petites affaires. Ouais. Alors tout ça, ça fonctionne très bien, jusqu'à ce qu'arrive Aristide Thomereux, qui aime en secret Madame Ribadier. Lorsqu'il apprend le stratagème, il décide de réveiller Angèle pour qu'elle découvre la supercherie et tombe dans ses bras à lui.
Et juste un mot, pourquoi l'hypnose ? Qu'est-ce que ça vient faire dans du boulevard ? Normalement, c'est des portes qui claquent et des passages secrets. Pourquoi l'hypnose ?
Alors, c'est une très bonne question, Philippe. C'est d'ailleurs celle que j'ai posée à Patrick Chesnay quand je l'ai rencontré. Patrick Chesnay, qui joue l'amoureux secret de Madame Ribadier, il nous explique pourquoi.
À l'époque, il y avait une découverte dont on parlait beaucoup, qui faisait le buzz, comme on dit maintenant, c'était l'hypnose. L'hypnose était un truc qu'on avait découvert, qui marchait, il y avait aussi beaucoup de charlatans et tout ça, mais enfin, c'était aussi utilisé en psychiatrie, tout ça. Donc c'était une espèce d'invention scientifique considérable dont tout le monde parlait, tout le monde se revendiquait, voilà. Donc il l'a mis dans une de ses pièces, Ribadier, c'était le système Ribadier, c'est ça, c'est se servir de l'hypnose pour endormir sa femme de façon à le faire des frasques à l'extérieur, plus tranquillement.
Et alors, est-ce que ça vous a plu, Alice ?
Alors, j'ai adoré. Déjà parce qu'on rit dès les premières minutes. Et ça, c'est quand même un gros plus. Et puis après, du coup, ça ne s'arrête plus. On a 1h50 où on rigole. On se demande comment tel ou tel personnage va sortir de cette situation. On est emporté dans une histoire complètement loufoque et hyper moderne. Alors, au passage, je voulais aussi souligner, quand Patrick Chesnay arrive sur scène, toute la salle applaudit. C'est vraiment super touchant parce qu'on voit que le public l'adore.
Et pourtant, Fedos, qui est un auteur vu et revu au théâtre.
Mais oui, c'est ça. En fait, ce qui est fou, c'est que cette pièce, elle va avoir 130 ans. Elle a été jouée des milliers de fois. Et pourtant, elle fait toujours le même effet au public. Elle n'a pas pris une ride. J'ai voulu demander à Patrick Chesnay s'il avait une explication.
Fedos se débrouille pour qu'on rigole quand même. Au bout d'une minute, à peine le rideau élevé, à part les gens tout de suite rient, partent au quart de tour. Il y a une espèce de mécanisme de théâtre. Voilà, qui est le talent burlesque. Puis des choses ne s'expliquent pas, on ne peut pas les expliquer forcément, c'est comme ça.
Et à l'époque, il n'y avait pas de portable.
Voilà, c'est comme ça. C'est le talent, un point c'est tout. Et le talent, il y en a beaucoup sur scène. Alors le système Ribadier, c'est donc au Théâtre de la Michaudière à Paris jusqu'au 2 janvier 2022. Et puis après, la pièce part en tournée dans toute la France à partir de janvier 2023. Vraiment, allez voir cette pièce, je vous la conseille, elle est top.
Alors j'ai noté, il est aussi avec
Isabelle Geynas
et Nicolas Vaude.
Nicolas Vaude, effectivement, beaucoup. Que j'ai oublié de citer.
Vous êtes fan de théâtre ou pas du tout ? Vous avez le temps d'y aller, Cécile de France ?
J'habite plus Paris, alors mais je pourrais. Il y a aussi des pièces, heureusement, qui se déplacent. Voilà. Non, mais j'y vais pas assez, malheureusement. Mais quand j'étais étudiante en théâtre, j'y allais tous les jours.
Tous les jours. Merci beaucoup, Alice. Nous, on se retrouve dans un instant. Cécile de France reste avec nous dans Culture Média. C'est la dernière ligne droite de l'émission. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la comédienne Cécile de France, elle est à l'affiche du film de Xavier Giannoli, Illusion perdue, qui sort demain, d'après Balzac, évidemment. On raconte comment la presse se fait acheter pour dire du bien et parfois du mal des pièces de théâtre. La comédienne que vous êtes a dû parfois frémir. Et la claque est organisée. C'était presque carrément des entreprises de claques jouées par Jean-François Stévenin. C'est peut-être son dernier rôle à Stévenin, parce qu'il nous a quittés en juillet dernier. Vous avez eu la chance de le croiser. Il est quand même époustouflant dans ce rôle.
Ah oui, c'est une grande, grande perte. C'est vraiment dommage qu'il ne puisse pas encore nous réjouir de d'autres rôles extraordinaires comme celui-là. Il joue effectivement Singali, qui entraîne son équipe, qui sont disséminés comme ça dans la salle. Et qui, évidemment, par un signal, lance soit des applaudissements, des cris de « Hourra !», etc. Et évidemment, qui pronostique un grand succès, ou des humains, carrément, il leur apprend à jeter des tomates, etc.
Et il arrive avec
et
les
ça,
tomates.
C'était pour de vrai. Hein.
Moi, je me demandais d'où ça venait. Cette... On raconte, on dit, on s'est pris des tomates sur la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Et ça vient de là, de cette période-là, 1820, à peu près 1830, le théâtre français, ouais, qui était d'une violence absolument inouïe. Vous avez dit que vous ne tournez plus de théâtre, mais vous avez plein de projets. Il y a eu tellement de films qui ont été tournés et qui sont bloqués.
L'embouteillage
à cause du confinement. Vous serez le 24 novembre dans le film d'Emmanuel Berco, De son vivant. Ça raconte quoi ?
Très, très belle histoire qui parle de la mort, mais en fait, finalement, de la vie, parce que c'est un conte philosophique avec Benoît Magimel et Catherine Deneuve et Gabriel Sarra, qui joue son propre rôle, qui est un grand monsieur, un grand humaniste, un cancérologue, et qui va nous, à travers ses paroles, nous parler des derniers instants de la vie et la possibilité d'être heureux jusqu'à la dernière seconde, en fait. Donc, c'est un message plein d'espoir.
Et on vous annonce aussi dans le prochain film de Wes Anderson, The French Dispatch, avec Timothée Chalamet. Vous pouvez nous dire plus ? C'est un gros rôle, un petit rôle ?
Alors, un rôle minuscule. Il ne faut vraiment pas fermer les yeux pendant ma scène. Mais j'ai eu la chance incroyable de tourner avec Frances McDormand, Christopher Waltz, Guillaume Gallienne. Mais bon, c'est moins extraordinaire que ces deux acteurs hallucinants qui nous ont vraiment bluffés. Guillaume et moi, on était et dirigé par Wes, d'être aux premières loges et pouvoir le voir mettre en scène. Parce que c'est toujours très mystérieux quand on voit ses films. On dit, mais comment il fait ? Parce que c'est un bricoleur, quoi. Voilà, c'est un... Il adore les loisirs créatifs, Wes Anderson. C'est quelqu'un qui va découper son image, qui va la colorer, qui va la décolorer, qui va la tirailler dans tous les sens. Et de pouvoir assister à ça, c'était une grande chance.
Et alors justement, comment il fait ? C'était comment la scène avec vous ?
Justement, c'était très étrange. Le décor était dans des couleurs assez... On se disait, c'est pas normal, ça va pas rester comme ça jusqu'au bout. Ça va être traité après en post-prod,
T'inquiète pas, c'est pas possible. On va rattraper au montage quand c'est très malin.
Non, on se dit, il y a un travail derrière, en fait. Nous sommes comme sa matière première. Ouais. Et après, lui, il bidouille, quoi. Et c'est ça qui est génial chez lui.
Mais ça, on le verra. Vous serez dans la série adaptée de la trilogie de Clapiche, L'Auberge Espagnole ?
Oui.
Ah, vous pouvez pas ne pas y être.
Salade grecque. Oui, hein ? Oui, il faut... Moi, j'adore mon personnage. Le retrouver, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis là, j'ai ma fille. J'ai ma fille qui a 14 ans maintenant. Eh oui,
attendez,
Isabelle a un enfant.
Ah, une fausse fille.
Oui,
parce que vous êtes tellement dans le personnage, vous me parliez comme si c'était votre fille qui allait devenir comédienne, comme la fille de Charlotte de Turckheim, mais ça aurait pu être vrai.
non, ma fausse fille, on va dire, mais Isabelle, dans le casse-tête chinois, est enceinte.
Ouais.
Et donc, elle a son bébé. Et puis là, elle a 14 ans.
Parce que je dois dire que votre personnage Isabelle a marqué la communauté lesbienne. C'est pour ça que c'est important et que vous nous le dites avec un petit sourire en coin que Isabelle a désormais une fille. Oui. 12h54. Non, pas 12h, 10h54. J'étais tellement focus sur le 54 et j'avais tellement faim. Je voulais juste vous dire que c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Et comme tous les jours, des stars sont là exprès pour notre invité. Et ce matin, c'est Dominique Besnéard qui vous avait découverte. Il vous avait repéré. Il est là pour vous, Cécile de France.
Oui, salut tout le monde.
Bonjour Dominique.
Vous savez ce que je me suis dit la première fois qu'on s'est rencontré avec Cécile de France ?
Non.
Que je l'aurais préféré qu'elle s'appelle Mireille d'Italie. Ça aurait été moins dur à prononcer avec mon cheveu sur la langue. Bon, en tout cas, j'ai tout de suite su que Cécile allait devenir une énorme star. C'est ce qui le différencie de Depardieu, qui joue aussi dans le film, avec quoi d'ailleurs ? Oui, toi, t'es devenue une énorme star, et lui, c'est devenu une star énorme. Oh, je suis mauvaise. Bon, en tout cas, ma Cécile, je vois que t'es en pleine tournée pour la promo du film, alors je te fais plein de bisous.
Merci, Dominique.
Et puis, en parlant de ça, Cécile, Marc-Antoine Lebray a réussi à vous faire inviter dans plein d'émissions pour la promo d'Illusion perdue.
Salut à tous, c'est Yann Barthès, bienvenue dans Quotidien. Ouh là là. Et si notre show s'appelle Quotidien, c'est parce que suspense, c'est quotidien. Un peu comme votre émission, Philippe, sauf que nous, on a des auditeurs.
Ah, nous on en a aussi.
Ouh là là. Aujourd'hui, je reçois Cécile de France pour Illusion perdue, qui est l'adaptation du roman éponyme d'Honoré de Balzac. Je précise, car Illusion perdue, on aurait pu penser que c'était un film sur la campagne d'Anne Hidalgo.
Bonjour, c'est Nagui et bienvenue dans mon jeu. N'oubliez pas d'aller voir le film de Cécile de France, j'adore l'idée. Alors, je vous rappelle les règles du jeu, elles sont archi simples. Vous allez au cinéma et vous achetez une place, sauf si vous êtes cul-de-jatte, du coup vous prenez une demi-tarif. Ou que vous avez droit au tarif enfant car vous avez moins de 14 ans, mais le curé qui vous suit devra payer sa place. Voilà, maintenant que les règles sont claires, à vous de jouer, ciao.
Et on termine, Cécile, avec Laurent Delahousse.
Bienvenue dans 20h30, le dimanche. Cécile de France, bonjour. Laurent, de France 2. Illusion perdue est donc une critique acerbe du métier de journaliste et je crois savoir pourquoi. Le réalisateur Xavier Giannoli a dû tomber un jour sur mon JT et forcément il a voulu se venger par jalousie devant tant de beauté. Bref, Cécile de France est née à Namur. En 1990, à l'âge de 15 ans, elle commence à prendre des cours de comédie avec Jean-Michel Frère, pour qui elle jouera dans le spectacle SC35C en 2001. Sur ce, je vous laisse, car malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire toute votre fiche Wikipédia.
Merci bravo. Marc-Antoine, merci Laurent. À demain, bravo. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec la team des chiffres et des lettres. Laurent Romeschko, Ariel Boulin, Bertrand Renard, Le Compte est Bon. Et puis la comédienne Catherine Yégel pour la pièce de théâtre Les règles du savoir-vivre dans la société moderne, qu'elle joue seule au théâtre du Petit Saint-Martin. C'est évidemment une parodie, ce titre. Merci d'avoir été avec
merci
nous,
à
Cécile
vous.
De France. C'était un régal. Juste après le flash, Julia Vignali et Mélanie Gomez pour Bien fait pour vous. Le programme du jour.
Alors, on va parler, justement, on va parler de bien parler. Est-ce que bien parler pourrait modifier notre vie, les mots, les bons mots? Est-ce que ça sert dans la vie? Et il y aura un avocat qui sera avec nous.
Voilà. Et puis, dans le dossier santé, on va parler d'aromathérapie, comment bien utiliser les huiles essentielles. Et puis, dans la séquence tendance, on va apprendre à faire des cookies et puis à se débarrasser de nos boules de bicha. Vous savez ce que c'est, les boules de bicha?
Évidemment, non.
Rien voilà, de sexuel. Rien de sexuel.
C'est juste ces amas de graisse qu'on peut avoir dans les joues. Donc voilà, on va parler d'esthétique.
Oh là là. On se creuse les joues comme ça.
D'accord. Je savais pas. On apprend tout le temps des choses. Merci
un sommaire
beaucoup.
Intéressant.
À demain. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut.
Europe 1.